C'est ma vie, une émission de Radio Semnose présentée par Henri van der Wecken.
C'est ma vie, c'est ma vie. Je n'y peux rien, c'est elle qui m'a choisi. C'est ma vie, c'est pas l'enfer, c'est pas le paradis.
Chers auditeurs, bonjour, au micro Henri van der Wecken, pour recevoir aujourd'hui dans les studios de Radio Semnose le préfet de la Haute-Savoie, M. Pierre Lambert. Bienvenue, M. Lambert.
Merci beaucoup.
Nous sommes heureux de vous avoir là parce que dans l'agenda d'un préfet, nous supposons qu'il y a bien des choses à faire et nous accorder ce temps, cela nous honore. Pour parler de vous aujourd'hui, nous allons le faire en 4 épisodes, votre jeunesse, vos études, ensuite votre rôle de préfet et finalement quelques questions de vie personnelle, d'intérêt, de hobby. Vous êtes né le 24 février 1954 en Corrèze, à Brive-la-Gaillarde. Ça forme un homme, cette contrée.
Oui, d'autres que moi ont connu des parcours plus glorieux, mais en tout cas, je suis un authentique corrézien et un vrai provincial, au sens où, effectivement, ma famille est enracinée dans ce territoire. Je suis d'une famille qui n'est pas du tout une famille de fonctionnaires, je suis une famille de minotiers. Mon grand-père et mon frère actuel, d'ailleurs, dirigent l'entreprise familiale que mon grand-père a créée dans les années 30. C'est une histoire de vie, de terroir, qui m'a beaucoup marqué dans mon enfance, puisque tous mes voisins, tous mes amis d'école étaient soit fils d'agriculteurs, soit enfants du pays. Je suis né à Brive, mais j'ai vécu dans une petite bourgade de 3000 habitants, qui s'appelle Objat, réputée au début du XXe siècle pour ses petits pois. On disait petits pois d'Objat. Et j'ai vécu une enfance tout à fait classique pour l'époque et pour ce type de territoire. C'est-à-dire que pour moi, il y avait l'école et le catéchisme et le rugby le week-end. Mes grands-parents qui m'ont élevé étaient soucieux de ma scolarité et de mon assiduité et m'ont pas vraiment poussé à faire du rugby le dimanche, pas plus que d'être au scout. Non, je suis resté sagement quand même à la maison, faire mes devoirs. J'avais malheureusement sauté une classe. Ma grand-mère était amie d'une institutrice, directrice d'école, qui a favorisé mon éveil très jeune, trop jeune, et sautant une classe, ensuite j'ai eu du mal jusqu'à la sixième à tenir la route, et donc ça m'a laissé des souvenirs contrastés. Ceci étant, bon, le travail, bien sûr, le sens des devoirs, le respect d'une forme de dualité entre la vie privée qui pouvait être religieuse, hein, celle de mes grands-parents, et ma vie sociale qui était tout à fait laïque, ouverte à tous. Beaucoup de mes collègues et enfants et amis de jeunesse ont quitté la religion après la communion, puisque la communion c'était le parcours obligatoire d'un jeune catholique. Moi non, moi j'ai continué. C'est-à-dire qu'en fait, je pense avoir le sens du territoire, le sens du social, on va y venir je pense, le sens de l'humain et peut-être aussi le sens, d'une forme de religiosité intérieure. C'est vrai que moi je suis resté assez fidèle à mon éducation, fidèle aux prêtres de ma paroisse, j'ai fait des pèlerinages à Lourdes, à Rome, j'ai été enfant de cœur. Je n'ai pas envisagé du tout de rentrer dans les ordres, ça ne m'a pas vraiment effleuré, j'y ai pas été poussé non plus par mon milieu familial. Mon grand-père était très, très laïque et républicain, il y avait la famille, le travail, la réussite, et donc l'école. Et à côté de ça, il y avait le reste. Il séparait bien les deux. Cette dichotomie m'a toujours porté, et je ne mélange absolument aucunement l'un et l'autre. Ceci dit, c'est vrai que j'étais imprégné de cette ambiance, il faut bien le dire, du catéchisme, la messe le dimanche, les sorties à Rome plusieurs fois. J'ai fait 4 pèlerinages avec le prêtre de la paroisse. Elle m'appelle Pierre parce que moi je suis imbibé d'une période de l'histoire de notre pays qui est la Première Guerre mondiale. Ma grand-mère avait une sœur qui était institutrice, un frère qui s'appelait Pierre et qui est mort de la grippe espagnole après la guerre. Et donc mon prénom de Pierre est venu du souvenir de ce grand-oncle qui est décédé. Mais ma grand-mère, elle avait la foi du charbonnier, quoi. Elle était croyante. Bon, j'allais avec elle à l'église. C'est une forme de soutien moral que je lui apportais aussi. Mon grand-père était un peu plus distant, beaucoup plus radical socialiste. Il était, il faut que vous sachiez, il était maire et conseiller général du canton. Il avait des fonctions, c'était un notable. Chef d'entreprise, je vous l'ai dit, mais aussi un notable très laïque, républicain, tendance Clémenceau, dans sa jeunesse. Ensuite, en tant que maire et conseiller général du canton d'Ayen, donc il a pris une position très 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 vite et très claire en faveur de la nouvelle génération d'élus, Jean Charbonnel en l'occurrence, qui est devenu ministre du général de Gaulle, alors que lui était très sincèrement de tendance radicale socialiste et beaucoup plus marqué à gauche au début de sa vie. Ensuite, il a fait des affaires, il a vendu la farine, a gagné de l'argent et bon, il a évolué différemment par la suite.
Vous dessinez là un tableau très complet, me semble-t-il, de ce qui vous a formé en tant qu'enfant, oui. En tant que jeune. Oui. Vous faites le bac après, vous choisissez une direction particulière là déjà.
Alors, le bac, pour moi, ça a été un parcours aussi du combattant. Je vous ai parlé de mon enfance au début, à l'école, qui a été difficile à cause d'une classe que j'ai préemptée. Je ne vous cache pas que le bac m'a fait faire un bac scientifique, alors que je n'étais vraiment pas fait pour ça. J'ai échappé au pire. Mon grand-père, qui avait un brevet de technicien, me voyait bien dans l'enseignement technologique. Heureusement que je n'ai pas fait ce parcours. Je crois que je n'étais vraiment pas fait pour ça. C'est pour ça que moi, je pense, et par rapport à mes enfants, je les ai laissés guider leur choix. Je crois qu'il ne faut pas dicter des choix d'enfants. Il faut aller au-delà de ses goûts, de ses aptitudes. On n'est pas nécessairement tous égaux devant les maths, hein. Même si c'était la voie normale et royale pour moi, parce que la plupart des bons élèves de la classe étaient effectivement en filière S à l'époque, on disait scientifique. Et j'en passais mon bac avec grand peine. Et au repêchage, c'est pas glorieux de ma part, à côté de Limoges, dans l'académie de Limoges, où j'étais interne à Saint-Thierry-la-Perche. Cette période d'internat en terminale m'a apporté aussi des éléments de vie sociale et conviviale que je n'avais pas connus, parce que quand même très protégé par mes grands-parents, qui avaient un certain train de vie et une assise sociale, j'ai découvert le tout venant. Hein, c'était mes copains de rue et de classe. Mais en vivant avec eux en terminale pendant une année, j'ai découvert sans doute une vie de communauté que je ne connaissais pas avant.
Vous faites la terminale, et qu'est-ce qui se passe juste après ? Est-ce que vous faites un choix ? Est-ce que le choix s'impose à vous ?
Alors le choix normal aurait été d'aller à Limoges, à la faculté de Limoges. Bon, je vous l'ai dit, je n'étais pas très bon en mathématiques, donc je voulais absolument pas suivre une voie scientifique. Là, pour le coup, on m'a laissé du champ. Je me suis laissé guider moi-même par mes envies. Et j'ai fait une classe préparatoire de lettres supérieures, paradoxalement, après avoir fait un parcours difficilement scientifique, à Bordeaux. Alors Bordeaux, c'est à la fois le choix d'université importante, mais c'est surtout le choix d'une famille, parce que mes parents étant divorcés, ma branche familiale était corrézienne, y compris mon père que je voyais régulièrement, qui ne vivait pas bien sûr dans le cercle familial avec ma mère et mes grands-parents, et ma famille bordelaise, dont mon père était issu, et mes cousins, donc Germain, qui m'ont d'ailleurs très aimablement accueilli à Bordeaux, m'ont aidé dans ma vie universitaire, ma vie sociale sur Bordeaux. Et pour moi, ça a été des années très enrichissantes, à la fois au plan familial, où j'ai redécouvert une famille, hein, qui était la branche de ma famille divorcée, et puis une grande ville, une vraie grande ville, une vraie capitale régionale, la capitale de l'Aquitaine.
Vous avez choisi une pièce musicale en lien avec toute cette période que vous venez de nous relater. Et vous avez choisi ?
Le temps des cerises, parce que c'est une chanson que chantait beaucoup mon grand-père. J'aurais pu choisir aussi Les Blés d'or, par exemple, qui est la chanson du film admirable Les Gardiennes, d'un artiste que j'ai connu en Poitou-Charentes, Ernest Perrochon. Un vrai radical, lui aussi, un vrai convaincu des valeurs de la République, de la réussite par soi-même, par l'effort, par le mérite. Sujet auquel je suis très sensible, évidemment. Le temps des cerises est une chanson qui me rappelle mon enfance, mes grands-parents, une certaine de vision sociale et d'appel à la fraternité, malgré la douleur de la guerre et de la commune.
Quand nous chanterons le temps des cerises, et gai rossignol et merle moqueur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête, et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons le temps des cerises, sifflera bien mieux le merle moqueur. Mais il est bien court le temps des cerises où l'on s'en va de thank you.
vous en saurez autant des cerises. Si vous avez peur des chagrins d'amour, évitez les belles. Moi qui ne crains pas les peines. Je ne vivrai pas sans souffrir un jour. Quand vous en serez autant de cerises, vous aurez aussi des peines.
Nous sommes donc, pour nos auditeurs qui prennent l'écoute à l'instant, en présence de Pierre Lambert, le préfet de Haute-Savoie. Nous venons de parler, Monsieur Lambert, de votre enfance, de votre jeunesse, des souvenirs qui sont liés, quelques aspects familiaux. Et puis vient un moment où, dans vos études, vous vous retrouvez à l'École nationale d'administration. Qu'est-ce qui vous a amené là ?
Eh bien, le fil de mes études, tout simplement. Puisqu'après 2 années passées au lycée Montaigne à Bordeaux, en classe préparatoire, où vraiment mon niveau de latin était digne du bon niveau de sciences, et donc je n'avais aucune ambition d'intégrer l'école normale supérieure, mais ça m'a permis de faire pendant 2 ans, avec des équipes de qualité, des enseignants de qualité, un apprentissage des études d'histoire. Je me suis passionné pour l'histoire. Depuis la classe de 3e, je m'étais intéressé à la Révolution française, je m'étais intéressé à l'histoire plutôt contemporaine, l'histoire sociale. Bon, de fil en aiguille, au bout de 2 ans, j'ai une équipe au niveau Bac plus 2 en histoire. Je passe ma licence d'histoire, toujours à la faculté sciences sociales de Bordeaux. Et puis, des amis étudiants en histoire m'ont dit « Mais tu sais, tu devrais aussi faire sciences politiques, parce qu'il y a un institut d'études politiques qui est à Bordeaux, qui est de bon niveau. Il prépare aux écoles d'administration, enfin aux différentes écoles, et tu verras, ça devrait te réussir. » C'est ce que j'ai fait. Avec le système, à l'époque, par équivalent, je suis arrivé directement en 2e année de l'institut d'études politiques. J'ai fait en 2 ans donc mon diplôme de l'IEP. Alors, toute modestie mise à part, parce que je suis quelqu'un quand même de discret, à défaut d'être modeste, je suis discret, j'ai fini major de cette promotion. Et de 1977, de l'Institut d'études politiques de Bordeaux, où je me suis vraiment senti, grâce à mes acquis d'histoire, très très à l'aise sur tout ce qui était histoire sociale, histoire politique, histoire des institutions, connaissance du droit constitutionnel, du droit administratif. Tout ceci, finalement, fait partie d'un corpus, intellectuel, qu'on acquiert facilement quand on a une base en sciences sociales et notamment en histoire. Étant major de la promotion, je me devais d'aller le plus haut possible, et donc j'ai été inscrit en classe préparatoire à la préparation de l'ENA, toujours à Bordeaux. J'ai hésité à m'inscrire à Paris, j'aurais été admis à la préparation à l'IEP de Paris, de l'ENA toujours. Mais en fait, vous savez, comme mes autres collègues de l'université, on préparait l'ENA, mais on préparait également d'autres concours. J'aurais aimé être enseignant, parce que je vous ai parlé de l'histoire, de mon goût pour l'histoire, où le goût de l'enseignement m'aurait également intéressé. Mais alors, c'est complètement prosaïque ce que je vais vous dire, mais à l'époque, le nombre de... c'est un concours de circonstance, le nombre de places, de postes ouverts au CAPES, à l'agrégation, était vraiment en baisse en histoire. Et donc, je me suis dit, bon, comme mes collègues ont fait Sciences Po avec une certaine réussite, ont préparé l'ENA et ont eu l'ENA, je veux dire, je vais quand même essayer. J'ai préparé l'ENA, j'ai préparé aussi le concours de directeur des hôpitaux, le concours de la sécurité sociale que j'ai eu également. Donc j'ai été admis en 2e année après une 1ère année échouée à l'oral de préparation à l'ENA. J'ai repassé le concours la 2e année et j'ai finalement été reçu en même temps que le concours de la sécurité sociale de Saint-Étienne. Je me voyais très bien, moi, diriger une caisse de sécurité sociale. On restait dans le domaine du social, avec des moyens employés, des moyens de management, de direction, de financement. Mais l'ENA, c'était quand même ce qu'il y avait de mieux à l'époque. Alors, je suis sorti très moyennement ma promotion, mais j'en suis sorti avec toujours ce goût du social. Et plutôt que de choisir le corps préfectoral tout de suite, je voulais profiter aussi de la vie à Paris, connaître au mieux Paris, et je suis rentré au ministère du Travail pour m'occuper de questions sociales et de politique de l'emploi.
Est-ce que l'on peut dire, un peu selon les paroles de la musique qui ponctue notre émission et qui « C'est ma vie » avec ce chant d'Adamo qui chantait en son temps,
oui.
« C'est ma vie, je n'y peux rien, c'est elle qui m'a choisi ». Est-ce qu'il y a une partie de votre vie qui s'est faite comme ça parce que telle ou telle direction n'était pas possible? Il y a une partie de choix, il y a une partie de non-choix?
Complètement. Le non-choix, encore une fois, des sciences, le non-choix des questions technologiques, bien que je promeuve l'enseignement professionnel pour ceux qui ont les aptitudes, parce que c'est aussi des voies qu'il ne faut pas délaisser. Mais moi, très sincèrement et modestement, je considère que je n'étais pas fait pour ces filières-là. Je ne sais pas, mon père était docteur en droit. Peut-être que inconsciemment, je le voyais peu, parce que, encore une fois, mes parents divorcés, je ne le voyais pas tous les jours, mais je le voyais de temps en temps. Est-ce que j'ai eu de lui une sorte de, je sais pas, de feeling, quelque chose qui fait que j'étais plus à l'aise dans ces matières de droit et de sciences politiques que je ne l'étais dans les matières scientifiques ou économiques, je ne sais pas. En tout cas, c'est vrai que le fait de ne pas aller dans certaines directions m'ont conduit à aller dans d'autres directions. Et que le hasard de mes études, en tout cas, bon, bien sûr, je me suis un peu donné quand même pour réussir mes études, ça va de soi. On fait rien sans effort, hein. On n'obtient rien sans effort, ça c'est clair. Quelque chose que j'ai acquis, encore une fois, dès la sixième, en ayant malheureusement redoublé mon CM2. À force de traîner du retard, je me suis rendu compte qu'il fallait mieux redoubler CM2, ce qui pour moi a été un traumatisme, je ne cache pas, par rapport à ma famille, un grand affront. Je me suis promis de ne jamais réitérer et ne jamais échouer. Donc, effectivement, bien sûr, le hasard des études, la volonté de réussir, les conseils qu'on peut avoir de certains camarades de promotion, les conseils qu'on se donne. C'est vrai qu'on est dans un monde où la réussite personnelle l'emporte, mais on réussit pas tout seul. On réussit grâce au soutien de sa famille, y compris financièrement. On réussit grâce au soutien de ses amis, au soutien de ses collègues, de ses camarades de promotion, et on se donne des... On était dans cet esprit à Bordeaux. On devait réussir soi-même les uns contre les autres, mais aussi les uns avec les autres. Et c'est sûr que si j'avais choisi l'UP de Paris, je n'aurais pas eu de bénéfice. J'aurais été obligé de repartir à zéro, je ne suis pas sûr d'avoir réussi cette école à Paris. Donc je pense que dans mon milieu bordelais, j'étais familialement, avec effectivement des amis, avec des collègues de promotion, beaucoup plus à l'aise pour tenter cet effort.
Vous avez un parcours qui, tous les ans, tous les deux ans, une fois six ans, ou tous les trois, quatre ans, change, non pas change totalement de direction, mais au moins change de lieu, avec chaque fois des attributions qui se complètent, qui se touchent, qui bifurquent. Comment vous avez vécu, comment ça se passe quand on entre, comme vous l'avez fait, dans l'administration? Vous avez commencé comme administrateur civil au ministère du Travail, de l'Emploi et de la Formation professionnelle, rien de moins. Et ensuite, ça va durer 4 ans, puis vous devenez sous-préfet, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Comment vous vivez ça? Est-ce que c'est quelque chose que l'on prévoit? Est-ce que ça tombe dessus? Ou est-ce que, voilà, ça fait partie du package?
Bon, le choix de devenir sous-préfet, puis préfet, c'est le mien. Toutefois, au départ, je vous l'aurais dit, j'ai commencé au ministère du Travail, donc la délégation à l'emploi, où je me suis beaucoup intéressé et impliqué dans les questions de formation professionnelle des jeunes, d'insertion professionnelle, d'apprentissage, d'alternance, de développement, effectivement, des enseignements professionnels. C'est les années où l'emploi revenait au devant de la scène, où le gouvernement de l'époque, Martine Aubry avait choisi le ministère du Travail plutôt que le Conseil d'État. Enfin, c'est l'époque où les élèves de l'ENA... Alors, moi, j'étais pas, de ce point de vue, le seul à choisir ce ministère. Beaucoup me le déconseillaient en me disant « Mais tu vas t'enterrer, tu peux prendre la préfectorale, va plutôt en préfectorale, fais autre chose, va pas dans ce ministère social ou... » Qui traditionnellement a été considéré comme un ministère, disons, pour les moins bien classés. C'est pas complètement vrai. C'est même pas vrai du tout. Moi, c'est un choix, effectivement, un peu d'affinité.
Là, on
sur
est
les questions
le
sociales.
Choix.
Ah, mais j'ai un choix sur les questions sociales, notamment d'emploi, qui me motivait beaucoup à l'époque, mais qui m'ont ensuite motivé dans toute ma carrière. Parce qu'en fait, en 4 ans, dans ce ministère et à cette fonction-là, j'ai connu des directeurs de l'emploi tout à fait intéressants, de bon niveau. J'ai été en contact au niveau central parisien avec tous les ministères. C'est très interministériel, l'emploi. J'ai assisté au fonctionnement de l'État au niveau central, y compris le budget, les différents ministères dits dépensiers. J'étais en contact avec un délégué à l'emploi qui était lui-même préfet, ancien préfet de la Dordogne, Gérard Borlaugé, qui m'a dit « Mais vous devriez vous intéresser à la préfectorale parce que vous avez un bon profil pour ça ». C'est vrai qu'en 4 ans ou 3 ans, j'ai accompagné toutes les promotions des campagnes pour l'emploi, pour les campagnes des jeunes. J'ai fait le tour des différentes préfectures de France avec les ministres, avec Philippe Séguin notamment et d'autres. Et je me suis dit qu'effectivement, la bataille de l'emploi, elle se faisait aussi et surtout sur le terrain. Plus qu'à Paris. À Paris, on fait des circulaires, on réforme des mesures, on budgétise des choses, mais c'est quand même dans les départements, au niveau des bassins d'emploi, là où les entreprises finalement produisent et vendent et recrutent, que se fait le vrai combat pour l'emploi.
Est-ce que le fait d'être venu de Corrèze, je dirais plutôt rural, vous a aidé à sortir de Paris?
Je savais qu'effectivement, bon, la province me retrouverait un jour. Je savais que je n'étais pas fait pour faire une carrière totale à Paris. Ça, j'en ai eu l'intuition très tôt. Et d'ailleurs, quand j'ai eu, parce qu'à l'ENA, on a la possibilité, au bout de 4 ans, de faire ce qu'on appelle une mobilité. C'est comme ça que je suis rentré dans le corps préfectoral, d'ailleurs. Et j'avais frappé la porte du budget, la porte du trésor. Je voyais bien que ce n'était pas fait pour moi. Et que c'était pas. Et continuer au ministère des Affaires sociales, c'était pour passer de l'emploi à la sécurité sociale, de l'emploi à d'autres sujets. De toute façon, les sujets sociaux, c'est global. Quand on s'intéresse à l'emploi, on s'intéresse nécessairement aux autres problématiques. Oui. Non, mais par contre, oui, le goût du terrain m'est revenu pendant ces 3-4 ans. Parce qu'encore une fois, toutes les campagnes territoriales, tous les déplacements en province, toutes les réunions que j'ai pu avoir dans les préfectures, m'ont montré que les préfectures étaient au centre de tous ces sujets. Et donc, je me suis très vite dit qu'effectivement, au bout de la 4e année, j'allais demander un détachement dans le corps préfectoral. Je suis rentré précisément à Nancy pour m'occuper des questions de reconversion sidérurgique, de développement de l'emploi rural, de l'émergence à l'époque des missions locales et de l'insertion des jeunes dans les quartiers, dans les cités, on dirait aujourd'hui dans la politique de la ville. Et donc tout ceci m'a paru tellement pertinent que j'ai eu envie ensuite d'y rester.
Donc vous commencez par Meurthe-et-Moselle.
Oui.
Ensuite, vous êtes dans le département de la Vienne.
Un univers complètement différent, sur lequel j'ai pas eu trop de marge, mais qui m'a appris autre chose, c'est que la France rurale comptait aussi. Mais la France rurale, c'est la France de mon enfance. C'est une France où j'étais tellement chez moi que je n'avais pas besoin de la découvrir. À la différence de la Lorraine, que je ne connaissais pas, les problématiques de conversion industrielle qui m'étaient étrangers. Il faut que vous sachiez, quand j'étais enfant, bon, mon enfance corrézienne, l'école, je vous l'ai dit, etc., bon, ça c'était mon quotidien. Mes vacances, c'était la Côte Basque, et mes déplacements à l'extérieur du sud-ouest, c'était Paris, avec mes grands-parents. Je ne connaissais de la France que Paris, Bordeaux, Biarritz et Brive. Et oui, et un peu Limoges, puisque j'y ai passé mon bac. Après, oui, le corps préfectoral m'a fait découvrir la France.
Quelle est la cause, comme vous l'étiez, sous-préfet, puis conseiller technique, que ça change quasi tous les ans, en tout cas pendant une période, c'est tous les ans.
Ça, c'est un choix qui est dicté par le national, c'est un choix de gestion du corps qui fait qu'effectivement, il nous est demandé d'être mobile.
C'est la mobilité. Alors, de l'emploi.
Mobilité, oui, complètement, à la fois pour des raisons de service, c'est qu'on peut être utile à tel ou tel poste, et c'est le ministère au niveau central qui en décide. Bien sûr, on est consulté. Quand on est sous-préfet, on est consulté. Quand on est préfet, on l'est un peu moins. Mais quand on est sous-préfet, on est consulté sur, est-ce qu'on veut aller à l'outre-mer ou pas? Est-ce qu'on a des régions sur lesquelles on préférerait exercer ou pas? Moi, je vous cache pas que la Lorraine, oui, j'ai demandé ce poste en Lorraine, parce que j'étais intéressé, encore une fois, aux questions d'emploi et de sidérurgie et je voulais voir sur le terrain comment ça se passait. Après, Montmorillon, non, là, Montmorillon, c'est le ministère qui, le poste était à pourvoir, qui a été très court, qui aurait pu être plus long, je me suis beaucoup plu parce que c'est un poste très complet, plutôt axé sur l'élevage ovin. Donc là aussi, j'ai découvert la problématique de l'agriculture, la question de l'environnement territorial, la place des micro-entreprises sur un territoire, la vie sociale et locale qui était très 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 facile dans un arrondissement. Chacun est très proche, bien sûr, du sous-préfet. Le rôle du sous-préfet dans ce maillage également des rapports humains. Et j'y serais volontiers resté si je n'avais pas été sollicité par le ministre du Travail de l'époque, qui voulait un sous-préfet pour s'occuper des territoires. Auprès de lui, Jean-Pierre Soisson, et par la bienveillance de mon préfet de l'époque de Poitiers, voilà, j'ai été recruté au cabinet de Jean-Pierre Soisson sans un pur concours de circonstances à l'occasion d'une visite que le ministre faisait à Poitiers.
Vous passez au cabinet de ministre d'État, fonction publique, modernisation de l'administration, chef de cabinet du ministre de l'Environnement, et puis vous retrouvez 3 années en Corse, suivi par département du Doubs, ensuite département des Yvelines, préfecture de Val d'Oise, l'Essonne, les Deux-Sèvres, les Côtes d'Armor, et puis depuis 2016, préfet de Haute-Savoie. Nous allons en parler un peu de la Haute-Savoie depuis que vous êtes là et vous connaissez un peu mieux le territoire, mais ça fait déjà un tour de France assez intéressant au niveau des préfectures et des régions.
Oui, des régions très contrastées. J'ai beaucoup aimé, beaucoup appris. J'étais très heureux d'être nommé préfet, bien entendu, en l'occurrence préfet délégué, qui était pour moi également une transition vers autre chose que ce milieu des quartiers sociaux. Mais c'est vrai que dans l'Essonne, j'ai pas été non plus en reste. Vous occupez de Grigny, la Grande Borne, c'est pas mal non plus. Les Tarterets, c'est pas mal.
Pierre Lambert, vous parlez de tout ça avec passion, avec sourire et avec des souvenirs très forts.
Très bien.
Et on va donc écouter votre deuxième choix musical, oui, qui a à faire par votre amour pour le pays. Vous avez choisi le chant des partisans.
Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Amis, entends-tu ces cris sourds
Dans l'émission C'est ma vie, en présence aujourd'hui du préfet Pierre Lambert, préfet de la Haute-Savoie, qu'est-ce qui fait qu'un préfet reste 2 ans, 3 ans, 1 an, 4 ans, 5 ans? Quelque part, c'est l'État qui appelle ou c'est vous qui demandez peut-être avoir un changement?
Il n'y a pas de règle uniforme. Enfin, ce qui est clair, c'est que le préfet est à disposition du gouvernement. C'est dans notre statut. La différence du sous-préfet qui peut construire sa carrière, et vous avez vu que j'ai un peu construit quand même ma carrière. J'ai demandé à aller en Île-de-France à une époque parce que j'avais aussi des enfants qui étaient scolarisés en Île-de-France et j'avais besoin aussi d'être proche d'eux. J'avais demandé la Lorraine comme premier poste parce que je voulais voir la continuité entre ce que je faisais à Paris et ce que je voulais voir sur le terrain. Là, on peut solliciter des choses auprès du ministère qui, tant bien que mal, finalement, nous écoute et essaie de construire avec nous un parcours. Préfet, c'est bien sûr différent. Je ne dis pas qu'on n'est pas écouté, bien entendu, nous le sommes. Mais d'abord, les postes sont moins nombreux. Ensuite, la décision est complètement discrétionnaire de la part du gouvernement. Hein. Nous sommes à discrétion vraiment du gouvernement. Et la durée du poste est également fonction, encore une fois, des besoins, qui peuvent être ceux du territoire, des différents départements de France, où il y a nécessairement une mobilité, un turnover qui s'opère entre personnes de des générations différentes. Il y a des départs en retraite, il y a des entrées dans le corps, il y a des sorties. Mais c'est vrai qu'il nous a demandé de ne pas rester très longtemps sur le même poste, ceci pour faire appel, hormis les besoins qu'on peut avoir dans d'autres départements, mais faire appel à notre capacité d'adaptation et puis notre capacité aussi à impulser de nouvelles pratiques. Dès lors qu'on change de poste, on remet à zéro, on remet en question notre façon de travailler en équipe, on change d'équipe et on profite de l'expérience acquise au fil des différents postes. Mais disons, l'expérience en Corse m'a servi, l'expérience que j'ai eu dans le centre-ouest aussi. Je me suis beaucoup intéressé par exemple à l'intercommunalité sur la région des Deux-Sèvres, que j'ai continué après dans les Côtes d'Armor, en Bretagne, avec d'autres acteurs, d'autres élus, mais à la faveur des lois de l'époque qui me permettaient d'agir en tant que préfet pour reformater la carte intercommunale. Ici, depuis 3 ans en Haute-Savoie, c'est plus les questions d'environnement, les questions d'aménagement de la montagne qui m'ont bien sûr guidé, les questions aussi de contractualisation. Et c'est un univers différent que celui de la montagne par rapport à celui de la Bretagne. C'est toute la richesse également de ce métier qui fait que nous avons un capital vie, un capital connaissance, un capital de relations à refaire chaque fois. Il est évident que la Haute-Savoie pèse plus lourd en termes d'enjeux que ne pesaient les Deux-Sèvres. Je veux pas être péjoratif, encore une fois.
Les Deux-Sèvres, il y avait juste la situation.
Non, mais je veux pas les opposer parce qu'on est sur des typologies de départements différents. Il y a l'Ouest, le Centre-Ouest d'un côté et la zone de montagne alpine de l'autre. Mais il est évident qu'ici, en Haute-Savoie, les questions de mobilité, de logement, de transport, d'aménagement, des
frontières,
me rappellent davantage un univers métropolisation, comme celui que j'ai connu en Île-de-France, que le centre-ouest, où là les questions étaient plutôt l'irrigation, l'entretien du marais Poitevin, la création d'un plateau technique hospitalier dans le nord des Deux-Sèvres, qui m'ont occupé, qui m'ont intéressé, bien sûr, dans lequel je me suis investi, et les questions agricoles, qui ont été dirimantes en Bretagne, où là, effectivement, je suis arrivé avec une grave crise du porc et du lait, où j'ai eu à aider les agriculteurs à effectivement, revoir leurs pratiques, et puis aussi trouver des solutions, y compris financières, dans un contexte de crise endémique très fort, de surproduction laitière et porcine. Pour des problèmes sanitaires internes, la Chine a racheté beaucoup de production porcine et laitière, et du coup les prix se sont à nouveau envolés. C'était vraiment pas le cas quand j'y étais de 2014 à 2016. J'ai eu d'excellents rapports avec tous ces milieux agricoles, professionnels. Je me suis aussi occupé à Lannion des questions de nouvelles technologies, d'intercommunalité, je vous l'ai dit, également sur l'ensemble du département. Dans chaque poste, un préfet peut imprimer sa marque, même si on sait que le temps est compté. Mais justement, c'est bien parce qu'on ne connaîtra ni le jour ni l'heure qu'il ne faut pas perdre de temps. Et sans faire d'activisme, sans faire naturellement trop d'excitation sur les affaires, il faut accompagner le mouvement du département, si possible engager des pistes et être vraiment à l'écoute des acteurs locaux pour répondre à leurs besoins.
Vous faites des journées de combien d'heures et comment se remplit une journée type?
Alors moi, je ne compte pas les heures parce que c'est très variable d'une journée à l'autre. Il est évident qu'il y a des journées avec des décalages. C'est comme le week-end. On peut être, je ne cache pas que pour le coronavirus qui s'est déclenché au Contamine, j'y ai passé le week-end. Donc une journée type d'un préfet commence le matin par une réunion de contact avec ses collaborateurs, se poursuit ensuite par des différents rendez-vous, déplacements ou inaugurations qu'on peut avoir à faire. Se terminera le soir plus ou moins tôt, plus ou moins tard en fonction des fins de journée. Tous les mardis matins, je réunis les chefs de service. Il se trouve qu'avant la réunion de 10 heures, qui est habituelle pour moi le mardi avec mes différents chefs de service de l'État, direction des territoires, protection des populations, cohésion sociale, environnement, etc., tous mes services, y compris de la préfecture, tous les deux mois, je fais le point d'entreprise en difficulté. Donc j'avais à 8h30 une réunion avec la Banque de France, la direction des finances publiques et différents partenaires pour faire le point d'une vingtaine d'entreprises, disons, un peu en difficulté, de manière confidentielle, bien sûr. Le président du tribunal de commerce vient à nos réunions, ce qui est tout à fait aimable de sa part, mais on s'informe, hein, toute autonomie réciproque. 10 heures réunion, ça dure environ 2 heures, 2 heures et quart.
Ainsi donc une journée d'une bonne dizaine d'heures au moins,
à peu près. Plus ou moins variable selon les jours, mais c'est ça, oui. Si vous voulez un comptage moyen, c'est 10 heures par jour. Oui.
Vous le faites toujours avec autant d'investissement et de joie.
Bah, du plaisir
malgré,
en tout cas.
Malgré les défis, bien sûr.
Oui, je le fais avec beaucoup de goût, avec beaucoup d'envie.
Qu'est-ce qui vous motive?
Je ne suis pas lassé. Ah, ce qui me motive? Alors, oui, le fil rouge, c'est la France de l'intérieur, vue de l'intérieur, auprès des gens. Et c'est donc aussi le goût des autres, l'humain, le goût du contact. Je crois qu'il pour aimer la France, il faut aimer les Français, enfin, il faut aimer le contact, même si on peut être déçu parfois par certaines attitudes. Moi, je ne regarde jamais les réseaux sociaux. Je ne veux pas me laisser dépasser par des excès de caractère, de tempérament, de violence. La violence dans notre société, il faut au contraire la combattre par en étant soi-même, en étant responsable de ce qu'on dit, de ce qu'on pense, en agissant comme on le pense, c'est-à-dire le mieux possible, en étant aussi redevable de ce qu'on fait devant le gouvernement, ça c'est mon métier, mais aussi devant mes correspondants, que sont les collectivités locales, que sont les associations, que sont aussi les entreprises. J'estime ne pas être seul à pouvoir décider, mais au contraire, moi j'aime beaucoup la collégialité des prises de décision. Et finalement, ceci fait que oui, on peut assumer ce métier.
Excusez-moi, oui, on dit de vous que vous avez le contact décontracté, que l'humour ne vous déplaît pas, que vous avez une capacité de vous mettre à n'importe quel niveau social et que vous le faites avec calme. Ça me semble être des vertus importantes dans votre fonction.
Elles me sont venues au fil du temps. Un peu plus de confiance, bien sûr, en moi-même au fil des années. Le sentiment de ne pas avoir échoué dans mes différents postes. Je ne crois pas avoir de sentiment d'échec marqué jusqu'ici. Il y a pu y avoir des moments de tension. C'est sûr, quand vous êtes confronté à une grève, à une manifestation agricole, vous êtes obligé de demander à des agriculteurs de quitter la place, d'employer la force publique. Il y a eu la crise des gilets jaunes où j'étais également amené à cela. C'est pas toujours simple à gérer, mais on essaie de le faire avec la déontologie républicaine. Mais l'essentiel pour moi, c'est effectivement le contact au quotidien avec une multitude de correspondants, d'acteurs qui font la richesse du pays. Je suis toujours très heureux de visiter une entreprise, toujours très heureux de rencontrer une association. Encore récemment, une association qui fait de développement culturel, l'association Beauregard qui fait un développement culturel aux Aravis. Je vais essayer de la mettre en relation avec des porteurs de projets parce que je trouve que c'est bien de faire vivre un territoire, y compris sur le plan culturel, comme vous le faites en matière radiophonique. Et c'est vrai que ce territoire vit et la richesse du territoire, c'est les hommes et les femmes qui y vivent et qui tous les jours produisent des actions, des réussites, des idées.
Dans cet ensemble de votre vie, il vous reste du temps pour des intérêts extra-travail ?
Alors, il me reste de moins en moins de temps pour mon métier, hein, parce que vous avez donné mon âge tout à l'heure, donc je vous laisse apprécier si le terme approche.
Ne le répéterons pas.
Non.
Juste l'anniversaire.
Mais de toute façon, vous savez, ma biographie, elle est publique, il suffit de regarder Internet.
Hein, oui, bien sûr.
Et je n'ai pas à la cacher. Du temps pour autre chose que le travail, oui, heureusement. Ma vie de famille est ce qu'elle est, évidemment, elle est un peu contrainte par mes obligations professionnelles. Enfin, je vois quand même de temps en temps mes enfants, même s'ils sont à Paris. Pour ce qui est de mes passions privées, alors en matière sportive, je suis pas un grand sportif, mais je fais un peu de vélo, j'aime bien les bords du lac l'été. Je fais du tennis depuis longtemps, depuis longtemps. De mon grand-père qui m'avait obligé à faire du sport. J'étais petit pompier, donc je faisais le dimanche matin des exercices physiques. C'est pas mon meilleur souvenir non plus. Le cheval d'Arçon, tout ça. Mais par contre, après, il m'a obligé à faire du tennis. Et finalement, cette obligation est devenue un goût, ensuite vers 30 ans, et qui m'est resté un plaisir. Alors après, j'en fais un peu moins à 60 ans qu'à 30 ou à 40. Mais enfin, bon. Et puis, en matière culturelle, j'aime beaucoup le théâtre. Je vous ai dit mon contact ce soir avec un directeur de théâtre. J'ai le bon rapport avec Salvador Garcia, le directeur de Bonlieu, évidemment, où je vais assez régulièrement. Mais je suis ouvert à d'autres spectacles, y compris musicaux. Je vous ai parlé d'un festival de musique qui a lieu dans les Aravis, dont j'ai fait la connaissance récemment. Je vais quelquefois à Évian, en fonction du temps que j'ai, parce qu'effectivement, il y a des arbitrages à faire entre ces sorties de loisirs.
On dit qu'une promenade au Semnoz ne vous déplaît pas.
Alors, quand je vais à la montagne enneigée, c'est au Semnoz que je vais. D'abord parce que c'est proche d'Annecy. Il y a moins de problèmes de circulation qu'ailleurs. Je passe moins de temps sur la route et davantage à m'aérer en faisant mon petit tour. Alors, j'ai essayé de le faire à ski quand je suis arrivé il y a 3 ans. C'est un peu tard pour se mettre au ski à mon âge, même si j'ai fait un peu de ski de fond quand j'étais en Franche-Comté, même si j'ai fait du ski. D'ailleurs, mes premières expériences de ski étaient à Avoria, en terminale. J'avais fait la station d'Avoria pendant une semaine. Et en revenant dans cette station, j'ai revu des images de l'époque, de mes 17-18 ans. Mais enfin, bon, je fais plutôt de la raquette ou de la marche, tout simplement, dans la neige, où je rencontre d'ailleurs des gens d'ici, des gens connus, des gens d'Annecy, que je vais ne pas citer, mais pour que vous connaissez certainement.
Semnoz, Radio Semnoz, la promenade
oui, oui,
au Semnoz.
On trouve beaucoup d'anciens, y compris quand j'ai des lunettes et un bonnet, on dit « Ah, monsieur le préfet, comment ça va ?» Oui, c'est difficile de passer incognito, parce que bon, je suis une personnalité publique aussi. Même si j'ai des côtés secrets, je suis évidemment connu publiquement, parce que souvent dans le journal, et cette imprégnation des gens à mon égard, je la ressens pas toujours, parce que bon, moi, je me regarde pas tout le temps dans la glace, ni en photo dans le journal. Non, puis c'est pas trop mon style, je suis pas narcissique. Par contre, c'est vrai que, oui, dans la rue, il y a des gens qui me croisent, qui me saluent, qui me disent bonjour. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'élus qui me connaissent et moi, je n'ai pas toujours le nom en face de leur visage, mais bien sûr, je les reconnais. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas que des élus, il y a aussi d'autres
oui,
personnes.
Oui, forcément.
Alors moi, j'avais choisi le chant des partisans en deuxième tranche musicale parce que dans mon métier de préfet, dans chacun de mes postes, ces questions de résistance, de déportation, de souvenirs de la Deuxième Guerre mondiale ont été très présents. Comme l'ont été d'ailleurs les souvenirs de la Première Guerre mondiale. Je vous ai parlé des gardiennes tout à l'heure, avec effectivement le roman d'Ernest Perrochon. Parce que la France a eu cette période tragique de son histoire, de 40 à 44, qu'elle a dû surmonter par elle-même, qu'elle a dû surmonter avec le courage de ses résistants. Certains ont fait mauvais choix, d'autres ont fait ce qui est devenu le choix de la lucidité, le choix de la raison, de la liberté. Et ce chant des partisans est un chant d'appel à la liberté. Bien sûr, la Marseillaise est le chant national, et celui-là, je l'entends à chaque cérémonie. Le chant des partisans me fait toujours réfléchir à notre histoire, comme le chant des marais aux souffrances de la déportation, mais le chant des marais se termine aussi par un chant d'allégresse. Et donc, effectivement, après la douleur, revient l'espoir. Et c'est vrai que dans ce métier de préfet, dans chacun de mes postes, je peux vous dire que j'ai été, que ce soit comme sous-préfet ou préfet, marqué par des faits de résistance, des faits de courage de tous ceux qui ont eu à cœur de défendre la liberté. Ici, c'est particulièrement important en Haute-Savoie, avec bien sûr l'Aiglière, les Justes à Thonon. Là aussi, j'ai des souvenirs à cet égard pour les 20 ans du mémorial de Thonon. Et bien entendu, je suis très proche de tous ceux qui portent ces valeurs de défense laïque et républicaine aux côtés de l'État.
Monsieur le préfet Pierre Lambert, merci beaucoup de nous avoir accordé ce temps privilégié et qui nous permet d'entrer un tout petit peu dans votre vie de tous les jours et aussi celle en dehors. Votre dernier choix musical avec lequel nous clôturons cette émission.
Eh bien, c'est un peu le résumé de ma vie de préfet, ma France, de ma vie tout court, de français, et ma vie de petit corrézien qui ne savait pas qu'il serait préfet un jour, même si son grand-père avait beaucoup de respect pour les sous-préfets de Brive et les préfets de Tulle. Mais non, je ne m'étais pas projeté dans ce métier. C'est encore une fois, au fur et à mesure de mon parcours universitaire, puis après de mes contacts professionnels, que j'ai fait ce choix, que j'assume parfaitement et dans lequel je suis pleinement heureux. Merci.
Je suis belge comme mon accent et les auditeurs le savent, mais aujourd'hui je peux très bien m'associer à cette chanson, Ma France.
Merci beaucoup.
De plaines en forêt, de vallons en collines, du printemps qui va naître à tes mortes saisons, de ce que j'ai vécu à ce que j'imagine, je n'en finirai pas d'écrire ta chanson, ma France. Au grand soleil d'été qui courbe la Provence, des genêts de Bretagne aux bruyères d'Ardèche, quelque chose dans l'air a cette transparence et ce goût du bonheur qui rend ma lèvre sèche. Ma France, cette air de liberté au-delà des frontières, au peuple. peuples étrangers qui donnaient le vertige et dont vous usurpez aujourd'hui le prestige. Elle répond toujours du nom de Robespierre, ma France. Celle du vieil Hugo, d'un an de son exil, des enfants de 5 ans travaillant dans les mines, celle qui construit ici de ses mains vos usines, celle dont Monsieur Thiers a dit qu'on la fusille, ma France. Picasso tient le monde au bout de sa palette, des lèvres des luards s'envolent des colombes. Ils n'en finissent pas, tes artistes prophètes, de dire qu'il est temps que le malheur succombe, ma France. Leurs voix se multiplient à n'en plus faire qu'une, celle qui fait toujours vos crimes, vos erreurs, en remplissant l'histoire et ses fausses communes, que je chante à jamais, celle des travailleurs. Ma France, celle qui ne possède en or que ses nuits blanches, pour la lutte obstinée de ce temps quotidien, du journal que l'on vend le matin d'un dimanche, à l'affiche qu'on colle au mur du lendemain, ma France. Qu'elle monte des mines, descende des collines, celle qui chante en moi, la belle, la rebelle. Elle tient l'avenir serré dans ses mains fines, celle de 36 à 68 chandelles, ma France.
Radio Semnose vous a proposé C'est ma vie, une émission présentée par Henri van der Wecken.
C'est ma vie, je n'y peux rien, c'est elle qui m'a choisi. C'est ma vie, c'est pas l'enfer, c'est pas le paradis.